RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC, RMC Story pour discuter, pour débattre, en direct jusqu'à midi. On vous attend au 32-16 bien sûr. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous, salut les déconstruits.
Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes avec Flora Guébali, entrepreneur dans la transition écologique, bienvenue Flora.
Bonjour à toutes et tous.
Et puis maître Charles Consigny, avocat, est avec nous aussi
bonjour
aujourd'hui.
Bonjour à
tous. Je parlais des déconstruits parce que tout à l'heure on va en parler avec notre invité Noémie Alouia. Qui a écrit « La terreur jusqu'au-dessous nos draps ». Elle explique que le nouveau féminisme tue l'amour. Et d'ailleurs, pour preuve, il y a un sondage qui montre que les jeunes, par exemple, font de moins en moins l'amour, terrorisés par ce nouveau féminisme.
On a dû lire ce week-end pour faire nos devoirs. Je ne vous remercie pas du dimanche après-midi que j'ai passé grâce à vous.
Bah, tu pourras lui dire.
Bon, on en parlera tout à l'heure.
Oui, oui. Il faut retrouver la séduction, ne plus avoir peur des rapports hommes-femmes. Donc, elle sera avec nous tout à l'heure à 11h20. Premier sujet de discussion, ce qui s'est passé à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, avec l'attaque d'un commissariat.
RMC, les grandes gueules.
Il y a eu une cinquantaine de personnes qui s'en sont pris au commissariat avec du mortier, des cocktails Molotov, 9 interpellés. Nicolas Repère pour RMC est sur place justement. Vous êtes arrivé très tôt ce matin, Nicolas, et tout ce coin-là où vous vous retrouvez porte encore toutes les traces de l'attaque. Hein.
Salut les GG, bonjour Alain, bonjour Olivier. Ouais, en fait, je suis arrivé à 6h ce matin et ce que j'ai vu était assez marrant. Il y avait des employés de la voirie municipale qui nettoyaient la rue devant le commissariat parce que la nuit a été chargée, a été longue. Il y avait pas mal de boulot pour eux. Les poubelles ont été renversées dans la nuit. Il y avait des dizaines de jeunes en fait qui s'en sont pris au commissariat qui se trouve sur une place. Vous l'entendez, c'est vivant derrière moi peut-être. Et donc en fait des dizaines de jeunes qui ont attaqué visiblement le commissariat avec des mortiers d'artifice. Ils ont essayé de lancer des cocktails Molotov. Là, au moment où on se parle, 9h04 sur place, il n'y a plus beaucoup de traces. Hein, ça a été quand même bien nettoyé. La seule trace qui reste, c'est sur la façade du commissariat. Il y a une vitre qui est légèrement fendue en haut de la porte d'entrée. C'est la seule trace qui reste. Après, les habitants à qui j'ai pu discuter, qui habitent juste au-dessus, il y a un immeuble de 10 étages qui jouxte vraiment le commissariat. Et ben, les habitants me disent qu'ils ont eu vraiment beaucoup de bruit de 23h à minuit. Ça a duré environ une heure, et donc ils ont constaté eux ces mortiers d'artifice qui étaient lancés, ces fumées qui les incommodaient. Ils ont dû pour beaucoup fermer les fenêtres, et beaucoup d'habitants ici font le lien avec la mort de ce jeune de 18 ans qui est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir été percuté dans une course-poursuite par une voiture de police. C'était à Aubervilliers, une commune qui est juste à côté. En fait, ce jeune de 18 ans venait d'ici de la Courneuve. Beaucoup d'habitants à qui j'ai pu discuter appellent au calme ce matin. Ils espèrent vraiment que ça ne se reproduira pas, qu'ils vont pas vivre une nouvelle nuit d'émeute la nuit prochaine.
Merci Nicolas Repère, donc en direct de la Courneuve.
Oui, effectivement, il y a un lien, semble-t-il, et Laurent Nunez, le préfet de police, l'a confirmé ce matin sur BFM TV. Il y a un lien entre ce qui s'est passé hier soir et la mort de ce jeune de 18 ans lors d'une collision avec la police. C'était il y a 4 jours. Donc on a une cinquantaine d'individus, 9 personnes interpellées, 2 sont mineurs. Ils sont tous nés entre 2001 et 2007. On va voir si ça va continuer. Ce qui est terrible, en fait, c'est que ces images, elles font le tour des réseaux sociaux. C'est-à-dire que le mal est fait, en quelque sorte. Il y a un défi qui est lancé à la République, aux forces de l'ordre, et on voit que pendant une heure, finalement, les policiers sont retranchés dans le commissariat.
Ouais, c'est le siège.
Et qu'on a des, voilà, c'est le siège. Et ces images, elles font beaucoup de mal parce que elles inversent les choses. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup des jeunes, et parfois très jeunes, qui font la loi dans un quartier pour se venger de la mort de leurs camarades. Bon, c'est assez habituel. Mais quand même, le fait d'y aller en toute impunité et se filmer, c'est peut-être ça qui est nouveau. Et ces images qui vous font du mal, c'est d'ailleurs pourquoi les autorités réagissent très vite.
C'est vraiment de l'attaque anti-flic, Jean-Loup, hein, Jean-Loup Bonamy. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oh bah oui, mais moi je sais pas, je trouve ça d'une banalité.
On est même plus très étonné.
Oui,
quoi,
moi
finalement.
Je suis pas étonné du tout. C'est devenu extrêmement classique, et je dis même devenu. Enfin, moi j'ai J'ai toujours connu des choses de ce type. Alors là, c'est peut-être monté en fréquence. Et comme tu l'as bien dit, Olivier, c'est aussi monté sur le fait de se filmer et de diffuser sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, ça ne me surprend pas. Même, je dirais, ça ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est la passivité des pouvoirs publics. C'est-à-dire que, oui, tu peux me réinviter dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Tant qu'on n'agira pas, ça sera toujours la même chose et ça ira en s'amplifiant. Simplement, j'aimerais simplement ne plus jamais entendre parler des soi-disant violences policières en France, dans les cités. Parce qu'en fait, je ne dis pas ce que les policiers auraient dû faire en France, et voilà. Mais dans la majorité des pays du monde, démocratique ou pas, aux États-Unis, c'est une démocratie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Russie, en Chine, en Turquie, enfin vraiment la majorité des pays du monde, les policiers seraient juste sortis et auraient tiré. En fait, y compris dans des pays démocratiques comme les États-Unis. Voilà, c'est en France, ils n'ont pas tiré. Alors, on peut trouver ça très bien. D'ailleurs, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, faut plus parler de violence policière. Voilà, la violence, on voit de quel côté elle est. Et c'est tout. Voilà, je ne ferai pas. Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autres commentaires à faire.
Flora Ghebali.
Je crois qu'il faut d'abord établir les faits. Qui est ce jeune qui a été tué en scooter? Quelles sont les causes? Je trouve qu'on n'a pas. J'ai vu l'info passer. C'était jeudi, il me semble. Oui. J'ai vu l'info passer jeudi, j'ai pas vu derrière les médias en faire un gros sujet. Et c'est vrai qu'on sait pas encore très bien ce qui s'est passé.
D'après les circonstances, il n'a pas été percuté par la voiture de police. La voiture de police, parce qu'il y avait une autre voiture qui arrivait, a dû se déporter. Et au moment où la voiture s'est déportée, le scooter, ils se sont percutés avec le scooter, quoi.
Oui, mais bon, c'est un refus d'obtempérer, ça on le sait, on ne sait pas encore exactement.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que la voiture n'est pas allée au contact pour le faire tomber.
Est-ce que c'était un accident?
Plus un accident.
Ça, c'est toi qui le dis, on n'a pas encore vu.
De ce qu'on a pu lire, différents articles et rapports, ça a plus l'air d'être un accident.
Donc moi, sur cette histoire précisément, je suis scandalisée par les vidéos de violence qu'on voit, c'est pas normal qu'il se passe ça. Plus globalement, sur la question des émeutes, comment on explique qu'il y avait entre 100 et 200 000 jeunes, j'ai entendu ce chiffre qui a été énoncé par Jérôme Fourquet récemment dans les rues, dans les émeutes l'été dernier. On parle de 100 à 200 000 personnes. C'est colossal. On ne parle pas de une centaine d'agitateurs. Ouais. Comment on explique que depuis, on n'a pas ouvert un dialogue, un débat politique, une discussion, une question? Aujourd'hui, ça s'enflamme et puis après, ça redescend et puis après, on met ça sous le tapis. Pendant ce temps, il y a le gouvernement qui nous propose de faire des consultations citoyennes. Moi, je veux bien, mais là, il y a le pays qui a feu et à sang.
Tu peux discuter, avoir un dialogue constructif.
Enfin, le pays, c'est toujours les mêmes quartiers.
Bah non, c'est le pays, vraiment. Parce qu'il y a des gens qui souffrent dans le pays entier de ces violences de rue, et il y a les policiers qui souffrent, et il y a aussi les jeunes qui souffrent, et il y a en fait beaucoup de gens qui souffrent. Et donc vous me ferez pas dire qu'il y a pas de violence, c'est pas vrai. Regardez ces vidéos, elles sont choquantes et c'est une catastrophe. Vous me ferez pas dire non plus qu'il y a pas un problème de fond et qu'il faut pas à un moment regarder appeler un chat un chat et regarder ce qui se passe.
Charles.
Non, moi ce que je constate, c'est que le problème des banlieues n'est absolument pas. On n'a pas du tout progressé en fait sur le sujet. Ça fait à peu près 30 ans, si ce n'est plus, 40 ans que ça dure, 50 ans peut-être, et le problème reste absolument entier. Sous d'autres gouvernements, il y avait une volonté de faire quelque chose. Je me souviens, Sarkozy, pour le meilleur et pour le pire, était assez volontariste.
Évidemment, il n'a pas nettoyé le Karcher.
Sur la question,
si on reprend ses expressions.
Non, mais bon, il y avait une espèce de tentative de faire quelque chose. Les internats d'excellence, la discrimination positive. On pouvait être d'accord ou pas. Moi, je suis contre la discrimination positive. Mais bon, il y avait une tentative. Hollande, il avait fait un truc de gauche typique que sont les contrats aidés. Qui sont en fait des contrats de travail payés par l'État, mais qui permettent de donner un travail aux jeunes. Et aujourd'hui, aux jeunes des quartiers, donc. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus du tout de vraie volonté. Je crois que la ministre de la Ville, qui est la ministre de la Ville?
Madame Agresti-Roubache.
Bon, elle est tout le temps à Marseille, parce qu'en fait, elle a des velléités municipales à Marseille, donc elle ne s'occupe pas de son sujet. Et puis, il y a aussi une exaspération par ailleurs. Non, mais
il y a la politique de la ville, mais là, t'as 50 délinquants qui font une attaque anti-flic. Ça n'a rien à voir avec la politique de la ville.
Ce qui va être intéressant, c'est de savoir quelle est la réponse pénale. Toi, tu es avocat, Charles.
Parce qu'on en a interpellé 9.
Que va-t-il se passer pour ces 9 personnes? Il y a 2 mineurs.
Il ne se passera pas grand-chose. Alors, il y en a neuf qui ont été retrouvés. Moi, je pense qu'il y a une exaspération populaire que je partage de la racaille. Je pense franchement que les Français en ont absolument ras-le-bol de la racaille, de ce style racaille, des vêtements racaille, du parler racaille, de la culture racaille et des violences racaille. Je pense que ce truc-là vraiment met les gens dans un état de nerfs dont on n'a pas idée. Je pense que les Français modestes sont mais épuisés quand ils prennent le RER de voir arriver des bandes de racailles qui foutent le bordel, qui parlent fort, etc. Et d'ailleurs, je vois par exemple sur les réseaux sociaux, cette exaspération se prolonge par le déni des pouvoirs publics qui font des campagnes pour la civilité dans les transports en commun en faisant comme si c'était Martine cadre 50 ans qui parlait trop fort dans son téléphone dans l'RER. Tout le monde a vu ces campagnes alors qu'on sait, on sait que c'est pas ça. Bon. Donc à mon sens, c'est vraiment une question qu'il faut aujourd'hui traiter. Moi, je pense qu'il y a un problème de... D'abord, peut-être, en effet, de réponse pénale, d'automaticité, de rapidité, de certitude, quelque chose. Voilà, on a peut-être une réponse pénale qui est trop diluée.
Mais tu as raison, c'est que depuis, par exemple, les émeutes, parce qu'en fait, c'était pas il y a si longtemps, hein, c'était l'été dernier qu'on a vu ces scènes multipliées par 100, avec beaucoup de violence, des bâtiments publics dégradés, des villes moyennes, des centres-villes.
Et en fait,
on n'en parle plus. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il est sur autre chose. Gérald Darmanin n'en parle plus. Et en fait, parce que je pense que le gouvernement a peur. C'est la phrase de la haine, c'est jusqu'ici tout va bien.
Oui.
C'est-à-dire que jusqu'ici tout va bien. Et bon, là, on va en parler aujourd'hui. Demain, on sera sur autre chose.
Tu as raison. D'ailleurs, quand on a reçu.
Pourvu qu'on passe sur autre chose, c'est ça que le gouvernement souhaite.
Quand on a reçu Mathieu Kassovitz au Grande Gueule, il a dit on réédite la haine en comédie musicale parce que rien n'a changé, malheureusement. Parce que ce film est toujours d'actualité. Donc, je suis assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas un président qui a apporté des réponses de fond et profondes.
C'est même pas un sujet, en fait.
Que Emmanuel Macron, il a jeté le plan banlieue de Jean-Louis Borloo à la poubelle et que personne n'a vraiment considéré ce sujet. Donc, on est à peu près, je pense, d'accord sur le constat. Ceci dit, je suis en total désaccord avec Charles, du moins, peut-être avec vous tous, sur les réponses et la racaille, parce que je crois qu'on laisse pourrir des territoires de notre pays, qu'on donne absolument aucune opportunité à une certaine catégorie de population qui se sentent reconnaissance au même titre. Alors je vais juste terminer mon parallèle, parce que c'est des gens qui se sentent non reconnus, au même titre que les gilets jaunes se sentent pas reconnus, au même titre que les agriculteurs se sentent pas reconnus.
Je crois que les jeunes,
et tout ça,
face aux Bervilliers,
compose une fracture française qui a un manque de considération de ceux qui la composent. Non, et je suis désolée, les agriculteurs sont la France, les banlieues, les quartiers populaires, la culture urbaine, ce que tu appelles les racailles. Il y a une partie de ça, c'est la culture urbaine, c'est le rap.
Tu peux pas comparer, excuse-moi, c'est très grave ce que tu viens de faire, tu peux pas comparer des agriculteurs en colère, on en parlera tout à l'heure, avec ces jeunes-là. Ces jeunes-là,
ils ont aucune revendication. Qui a le monopole de dire quelle colère je condamne la violence sans aucune discussion. Les gilets jaunes, ils étaient violents. Ils étaient à un moment comme les émeutiers. Souvenez-vous quand ils ont pillé la rue de Rivoli.
Comparaison ne vaut pas raison.
À Paris.
Enfin, c'est pas.
Mais comparaison ne vaut pas raison.
Les gilets jaunes qui étaient sur les ronds-points avec
un certain ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous dit tantôt les agriculteurs ont une colère saine, tantôt les écolos par exemple qui allaient à Sainte-Soline sont des éco-terroristes.
C'est une colère saine, ça ?
Pourquoi pas ?
Ça c'est une colère saine.
C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est la violence, c'est non dans tous les cas. La colère, c'est quoi ? Il faut maintenant être en colère pour avoir des chèques.
C'est un manque de reconnaissance.
Voilà ce que ça va donner. Ça va donner que tout le monde va se mettre en grève pendant les JO. Comme ça, tout le monde va nous montrer sa colère et comme ça, on va encore cultiver ce qu'il y a de pire dans notre culture. Bravo.
Alors pour répondre à Flora, simplement, ce midi, je vais déjeuner. Je vais manger un steak, je pense, peut-être, avec des pommes de terre. Et ce steak et ces pommes de terre auront été produites par un agriculteur. Les agriculteurs travaillent, ils produisent, ils nous nourrissent.
Non,
mais
je vois
fumes
mal.
Un pétard après.
Oui, bien sûr, si après je me drogue.
Par les émeutiers d'Aubervilliers.
Exactement, mais ce sera fourni.
Me sera fourni.
Non, 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 c'est eux aussi des
agriculteurs dans l'argent.
Il les produit soi, mais
et donc,
c'est
oui, en plus, non, c'est même pas des producteurs, c'est
la
simplement des
grandes distributions.
Le vrai producteur, c'est un ami du RIF marocain.
Voilà.
Eux sont juste des distributeurs.
Et c'est monstrueux d'essentialiser les personnes des quartiers populaires à des dealers.
Non, de cela.
On ne parle que des délinquants, on ne parle pas des habitants.
J'ai essentialisé.
On
ne parle que des délinquants.
Charles dit, si tu veux fumer un joint, on parlera d'eux.
C'est sûr. Évident. Je pense que parmi ces émeutiers, tu n'en as aucun qui a un antécédent pour drogue. Aucun.
Non, voilà, c'est très vraisemblable. J'ai pas dit aucun, j'ai pas dit tous.
Là, et c'est donc, 9 casiers vierges qu'on a.
Voilà. Et donc,
sur le métier.
Justement, moi, je considère au contraire que les habitants, la majorité des habitants de ces quartiers, ce sont des victimes qui sont pris en otage par une minorité de délinquants. Et que le comportement de cette minorité de délinquants qui prend en otage le quartier n'est pas acceptable. Et c'est normal de faire le distinguo avec les gilets jaunes ou avec les agriculteurs. Parce que la contribution de ces délinquants, je ne parle pas des habitants, je ne parle pas des jeunes qui habitent dans ces quartiers, en général, je parle des délinquants, leur contribution au bien-être économique et social et culturel du pays est nulle et même en fait très lourdement négative. Voilà, je parle uniquement des délinquants.
Dans un instant, nous serons avec Arthur, il est policier. Arthur, il est à la Courneuve, donc il viendra témoigner. Et puis nous serons avec Jonathan qui est du côté du Loiret et qui dit donc qu'on attaque des flics parce qu'il y a un jeune qui s'est tué tout seul en scooter. Donc voilà, la discussion continue. Attaque anti-flic à la Courneuve. Comment répondre? On vous attend au 32-16.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story, on débat, on discute avec vous, bien sûr, au 32-16. Ces images encore saisissantes. Malheureusement, c'est presque une habitude, hein. C'est-à-dire que c'est le commissariat de la Courneuve, pour qui c'est pas une première, qui a été attaqué par une cinquantaine de personnes durant une heure hier soir. Alors, c'est des tirs de mortier, ce qu'on appelle les mortiers. Vous savez, ce sont les gros feux d'artifice. On vise le bâtiment comme ça, puis ça éclate avec des étincelles sur le bâtiment. Il y a eu un ou deux cocktails Molotov aussi. C'est Jonathan qui veut en parler avec nous. Bonjour, Jonathan.
Oui, bonjour. Salut les grandes gueules.
Alors, vous avez vu, le motif pourrait être la vengeance contre la mort du jeune Wanis la semaine dernière, là, qui s'est tué à scooter.
Ouais, mais c'est facile. En fait, je vais répondre au propos de Mme Florent qui, tout à l'heure, disait « Le jeune était tué par la police. » Je vais
j'ai pas dit ça.
Ah, vous avez dit « Il a été tué. »
Il s'est pas tué. Il est mort,
Oui, mais il s'est tué tout seul. Je suis désolé. Bon, un refus d'obtempérer, vous assumez vos conneries. Vous prenez le risque de... Vous faites une connerie. Vous prenez le risque d'être poursuivi par la police. Et vous prenez le risque de vous vautrer. Je suis désolé. Moi, personnellement, je fais une connerie sur la route, je me fais arrêter par les gendarmes ou par la nationale, et bien je m'arrête et j'assume mes conneries. C'est tout. Il y a un moment, il faut arrêter. C'est trop facile de dire, bah ouais, mais parce qu'il est mort. Oui, il est mort. Il s'est tué tout seul. Il a joué au con, il a perdu, merci, au revoir.
Alors, il y aura une enquête, bien sûr, pour déterminer les circonstances, puisqu'il y a quand même, les policiers l'ont poursuivi. D'après les premiers éléments qu'on a pu avoir en fin de semaine dernière, dans la course-poursuite, il n'y aurait pas eu percussion volontaire. Il y a simplement un écart de la voiture de police, parce qu'il y a une autre voiture qui arrivait, et il y a eu une collision, quoi.
Oui, il y a eu une collision, mais en attendant, je suis désolé, le mec, malheureux, il est décédé, malheureusement.
Oui, il serait arrêté, ça serait pas arrivé, ce que vous voulez dire.
Voilà, il s'est arrêté, il prenait soit une amende, il faisait un peu de prison, et passe pas, merci, au revoir, on n'en parle plus. Il aurait été encore vivant, il aurait pas eu tout ce bordel. Mais à chaque fois, c'est le même cirque. Quand il y a des émeutes, c'est parce qu'un tel a fait le con, il s'est tué tout seul. Et ça part en suicide derrière. Au bout d'un moment, c'est stop, quoi. Moi, je suis désolé, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, dans certains pays démocratiques, la police aurait tiré.
C'est Jean-Loup qui disait ça.
Puisque vous interpellez Florent.
La police a le droit, devrait avoir le droit de se défendre. Vous vous tirez avec un mortier, que ce soit un mortier, ça peut blesser gravement, ou autre chose, vous posez le risque de prendre une balle. Merci, au revoir, c'est plié.
Ouais.
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça au final. Vous faites une bêtise, vous assumez, basta, merci, au revoir.
Parce que vous appelez merci, au revoir, ça veut dire mourir. Moi, je suis pas sûr que.
On
puisse tuer pour un refus d'obtempérer.
Bah, obtempère.
Il ne devrait pas y avoir de refus d'obtempérer. C'est ça le truc. Il ne devrait pas y avoir de refus d'obtempérer. On vous demande de vous, la police ou la gendarmerie ou la police municipale vous demande de vous arrêter. Vous, vous arrêtez. C'est tout.
On est d'accord, Jonathan, mais d'abord,
Jean-Loup prenait tout à l'heure l'exemple des grandes démocraties en citant la Chine et la Russie comme des
non,
pays.
Non, j'ai pas dit ça.
Non, mais ça comme pays dans lesquels
Les démocraties comme dans les dictatures.
Y compris dans les démocraties.
Oui. Les États-Unis.
Il faut quand même, moi je suis d'accord avec Jonathan, je considère que les refus d'obtempérer sont un phénomène absolument insupportable et que en effet, je pense que quand on commet un refus d'obtempérer, on prend son risque. Ça, je considère que il faut arrêter d'être angéliste là-dessus. Quelqu'un qui prend la fuite alors qu'il est contrôlé par la police, il sait qu'il prend un risque. Mais ceci étant dit, j'ai en tête quand même récemment, souvenez-vous, ça a quelques semaines ou quelques mois à peine, une policière qui, sur écoute téléphonique avec sa mère, raconte que, en fait, elle est allée au carton, sciemment, qu'elle a foncé sur un gars qui était en deux roues, que le mec est mort, et que tous ses collègues l'ont couvert heureusement, qu'ils ont tous menti sur procès verbal, et que donc elle s'en tirera bien. Manque de peau pour elle, elle était sur écoute quand elle a dit ça, et donc elle va devoir répondre, et eux aussi, de ses faux. Donc, je peux pas non plus suivre complètement l'idée de Jean-Loup et de Jonathan, selon laquelle, et finalement, les policiers, il faudrait toujours les croire sur parole, etc. Je pense pas qu'on arrivera à une situation plus apaisée dans notre pays si on va sur ce genre de système, mais je suis d'accord pour dire que les refus d'obtempérer, les racailles, le bordel, etc., on en a absolument ras-le-bol.
Juste, Charles me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Moi, je pense que quand quelqu'un est tué par la police, il doit bien sûr y avoir une enquête. Il ne faut jamais croire les policiers sur parole, ni parce qu'il ne faut jamais croire personne sur parole. Mais simplement, si l'enquête montre qu'il n'a pas commis de faute, qu'il n'y a pas eu, qu'il y avait bien eu un refus d'obtempérer à l'origine et qu'ils n'ont pas fait exprès de tuer, eh bien, alors je pense qu'il faut les laisser tranquilles. C'est ça que j'ai dit. Je leur ai pas donné une license to kill, comme dirait James Bond, un permis de tuer. C'est pas ça que j'ai dit.
On est très contradictoire parce que à la fois les refus d'obtempérer, il y en a de plus en plus, et on accuse la police finalement de laxisme, de laisser faire, etc. Oui. Et que dans certains quartiers, finalement, on pourrait être un délinquant de la route sans être contrôlé. Alors que si tu vas dans le centre de Paris, va place de la Concorde, si t'as un contrôle policier, tu t'arrêtes. Il n'y a pas de refus d'obtempérer, les gens s'arrêtent. Et puis dans d'autres quartiers, finalement, ça serait au bon vouloir de la personne, si elle, oui ou non, elle veut s'arrêter. Donc ça, c'est pas possible.
Oui.
Mais en même temps, quand la police commence à poursuivre ou veut vraiment arrêter la personne qui a refusé de s'arrêter, ben forcément, il y a un risque. Et donc, il y a un mort. Et derrière le mort, il y a des jeunes qui se révoltent, qui vont devant un commissariat et tirent de mortier. Bon. Derrière, il y a des gens qui vont nous dire, ouais, voyez, ces jeunes, ils sont à l'abandon, etc. Et on arrive un débat national.
Et je vais faire deux remarques. La première, c'est que bon, là, c'est à la Courneuve, sans surprise. Ça a toujours été un endroit difficile, ça a toujours été chaud. C'est Renaud en parlait dans les années 70 dans ses chansons, hein, à l'époque des loubards. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est une nouveauté, c'est que des quartiers aussi durs comme la Courneuve, avant, il y a 20 ans, il n'y en avait que dans certains endroits, dans les banlieues de grandes villes, etc., etc. Aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, ce type de quartier et ce type de problématique s'est diffusé sur l'ensemble du territoire national. Et aujourd'hui, tu as des petites et des moyennes villes de province où tu as des quartiers aussi difficiles avec le même genre de problème et le même genre de violence. Regarde par exemple la carte des émeutes de 2005 et celle de 2023, et ben tu vois que le problème s'est diffusé partout sur le territoire, y compris dans des petites et moyennes villes de province.
Ça ne s'était jamais passé.
Oui, alors là, je suis d'accord avec toi.
Passé, donc ça, c'est quand même le premier problème. Et le deuxième problème, c'est ce que j'appelle, c'est marrant, on en a parlé la semaine dernière, des émeutes sélectives. Parce que, tu vois, par exemple, quand il y a une jeune fille au mois de septembre, Sokaina, qui habitait ces quartiers, qui a été tuée par la balle perdue tirée d'un dealer, curieusement, il n'y a pas eu d'émeute, donc etc., etc. Cet été, quand il y a eu un jeune enfant de 10 ans, qui a été tué parce qu'il a été pris par hasard dans une fusillade entre deux gangs rivaux, il n'y a pas d'émeute. C'est l'émeute sélective.
On n'est pas sur les solutions.
Oui, mais c'est l'émeute. Je suis d'accord. C'est l'émeute sélective des délinquants qui appartiennent à une tribu, la tribu des délinquants de tel quartier. Et quand un membre du clan, quand un membre de la tribu est tué, eh bien ils font preuve de violence, et ils font preuve de violence contre la police qu'ils considèrent comme une bande rivale.
On
en
pas,
fait.
On n'est pas sur les solutions. Oui. Là, je trouve
la solution doit être pénale.
Mais merci,
on doit,
Jonathan.
On doit aborder la question des solutions.
Oui.
Ça peut pas être que il faut une solution pénale, évidemment. Je pense, moi, très, très dur, très automatique, très rapide, ça, rapide, bien sûr. Mais je pense aussi qu'on a un problème d'horizon, malgré tout, pour ces jeunes. Je ne dis pas que toutes les portes leur sont fermées, mais je dis que, franchement, on les aide quand même pas beaucoup à voir ce qu'ils pourraient faire pour sortir de leur trou. On a atteint un niveau de reproduction sociale en France quand même qui est vraiment consternant. Il suffit de regarder le gouvernement, il suffit de regarder les cabinets ministériels, les grandes écoles. Enfin, aujourd'hui en France, faut se dire la vérité. On peut réussir quand on vient d'un milieu très modeste, mais c'est quand même beaucoup plus facile de réussir quand on est fille d'eux ou fils d'eux. Non, mais Alain, je te jure, regarde dans les prépas pour Henri IV, regarde à l'ENA, mais moi, je le vois dans ma génération.
Je pense pas qu'ils étaient prêts pour faire l'ENA.
Il faut qu'ils aient des horizons.
Peut-être pas suite Sciences Po et de l'Amphigaza.
Il faut qu'ils aient des horizons. Moi, je vois dans ma propre génération, honnêtement, tous ceux qui font Normal Sup, l'ENA,
on est d'accord avec ça.
Les grandes écoles,
l'ascenseur social,
leurs parents ont fait Normal Sup, l'ENA, Sciences Po, les grandes écoles.
D'accord.
Donc il y a quelques
attendez, s'il vous plaît, Charles,
qui sont incapables de régler la situation.
Mais surtout, Charles dit qu'on parle pas de solution, mais on parle même pas de politique. C'est-à-dire qu'on déplore des faits. Là, je viens de faire un tour sur Twitter. Pour l'instant, c'est très factuel. On oublie de dire qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de ce pays qui s'appelle Emmanuel Macron depuis 2017, qu'il a commandé à un homme politique vraiment visionnaire, même s'il n'est pas de mon camp, qui s'appelle Jean-Louis Borloo, un plan banlieue. Jean-Louis Borloo, il lui a déposé sur son bureau un plan banlieue en 2018 avec une solution de financement, une solution. Et qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il l'a jeté à la poubelle. Et moi, je vais vous dire
Jean-Louis Borloo avait la solution miracle.
Moi, je vais vous dire ce que c'est. Oui, mais moi, je vais vous dire ce que c'est le point commun entre les agriculteurs, les gilets jaunes, les banlieues, les violences faites aux femmes et la plupart des problèmes qu'on a dans cette société.
Et la déforestation de l'Amazonie.
L'Amazonie, non, le non-traitement de la question écologique en France, oui. Je vais vous dire ce que c'est le point commun. Le point commun, c'est qu'on a un gouvernement qui fait une société liquide et qui nous parle d'Aya Nakamura ou de Gérard Depardieu au lieu d'avoir des vrais projets politiques pour notre pays et réparer les problèmes les uns après les autres. Tant qu'on a un gouvernement qui préfère allumer des feux que régler les problèmes, on n'ira nulle part.
Kumba est avec nous. Bonjour Kumba.
Bonjour.
Infirmière du côté des Yvelines, qu'est-ce que vous en pensez alors de ce qui s'est passé à la Courneuve, Kumba?
Alors moi déjà, première chose, je suis absolument pas d'accord avec Flora Gebali. Je m'explique, j'ai grandi dans un quartier à Mantes-la-Jolie, j'ai 39 ans aujourd'hui. Donc c'était beaucoup plus compliqué à l'époque, nos parents sont arrivés, on a tous eu des parents immigrés. Pour la plupart qui savaient ni lire ni écrire, à l'époque c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait beaucoup moins d'accès il fallait se battre pour obtenir les choses. On s'est battu pour certains, d'autres ont fait des choix, c'est des choix, hein. À un moment donné, ça s'appelle des choix. Et ces jeunes-là, ils ont beaucoup plus de chances que nous ce qu'on avait, et ils font des choix. Et il faut pas à un moment donné les victimiser, de se dire ah les pauvres petits, on leur donne pas ci, on leur donne pas ça. Je suis désolée, on leur en donne trop justement. C'est ça qu'il faut qu'aujourd'hui ils arrivent à ce stade-là. Ils n'ont pas assez de punitions. Ils sont trop pourrigatés, en fait, pour pouvoir mesurer la dangerosité de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que là, les émeutes, là, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils détruisent, c'est leur environnement, en fait. C'est là où leurs parents vont faire
Oui, c'est ça. Ouais. C'est les policiers dont ils peuvent avoir besoin s'il y a des violences dans la famille ou quoi que ce soit aussi, bien sûr.
Après, les policiers, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai vu la vidéo de ce qui s'est passé. On ne sait pas encore si c'est un refus d'obtempérer ou pas.
Non, l'enquête est en cours.
Voilà, on laisse l'enquête se faire. Pour moi, hein, de mon point de vue, il y a des torts des deux côtés. Parce que les policiers, aujourd'hui, ils ont une appréhension quand ils voient les jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont déjà peur. C'est la peur qui domine, en fait, aujourd'hui. Et la réponse à cette peur, c'est la violence. Et à un moment donné, il faut arrêter de dire « Oh, il y a des victimes, oh, il y a des coupables ». Non, à un moment donné, il faut se poser, vraiment réfléchir. Et se dire que voilà, pourquoi on en arrive là dans ce monde d'aujourd'hui où tout le monde répond à tout le monde par la violence? Pourquoi on n'a pas d'autres? On est doué de paroles.
On a
la parole, on a nos bulletins de vote. Pourquoi dans ces quartiers-là, les gens ne votent pas? Pourquoi? Enfin, c'est ces questions-là qu'il faut se poser réellement.
Mais ça fait 40 ans qu'on se les pose, hein, madame.
Et moi, j'ai 40 ans, je vais avoir 40 ans aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie? Pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai fait un chemin où j'ai réussi un petit peu à m'en sortir? Pourquoi d'autres n'y arrivent pas? Il y a un moment donné, il y a une chose qu'on appelle la volonté. À un moment donné, on peut pas toujours s'asseoir et dire ah j'attends que ça vienne à moi.
Je suis assez d'accord avec ça.
Faut se lever et aller chercher
à condition d'aider ceux qui sont volontaires. Et c'est là où je rejoins Richard.
Comment les aider? Nos parents, voilà. nos parents, ils sont venus ici, ils savaient ni lire ni écrire. Ils
c'est
se
vrai.
Donnaient le moyen.
C'est vrai.
Ils se sont tués pendant 40 ans dans des usines. C'est comme ça qu'on paye nos parents.
Mais madame, par exemple, Kumba, est-ce que vous aimez?
Oui,
est-ce que vous aimez votre métier d'infirmière?
Moi, j'aime mon métier.
Il vous intéresse, il vous satisfait.
J'ai choisi
est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait une bonne chose que vous puissiez, avec d'autres gens qui exercent des métiers qu'ils aiment aussi, venir expliquer votre métier? Moi, je trouve qu'on manque cruellement de ça, venir expliquer votre métier dans les collèges et les lycées des quartiers difficiles. Parce que moi, ce que j'observe, c'est que souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils pourraient faire dans la vie. Ils se raccrochent à des figures, ils veulent être footballeur parce qu'ils voient Mbappé à la télé, ou rappeur parce qu'ils voient voilà. Mais
non,
par exemple,
c'est,
je pense
c'est
franchement.
C'est l'argent.
Je
c'est
pense que, oui, mais je pense,
et
après, il y a le deal aussi, quoi.
Je pense qu'ils n'ont jamais eu, par exemple, une infirmière qui soit venue leur expliquer pourquoi est-ce que c'est satisfaisant, humainement, enrichissant d'être infirmière.
Kumba devrait servir d'exemple.
Je trouve qu'il faudrait aller présenter les métiers.
Oui, mais aujourd'hui, Kumba va te dire qu'aujourd'hui, ce qui fait rêver, c'est les influenceurs qui expliquent,
qui gagnent. Moi, j'ai des enfants, ma fille, elle a 12 ans. Son rêve, c'est d'avoir, c'est de faire des vidéos. Mais, j'installe un environnement pour mes enfants qui font qu'aujourd'hui ils auront d'autres ambitions que celle-là. Oui, d'accord, on a la vie de quartier, oui, c'est pas facile, oui, on est noir, oui, on est arabe, ok, d'accord. Mais si on s'arrête à ça, mais on fait rien en fait. On fait rien du tout. Et il y a qu'en France qu'on voit ça. Les gens toujours dans la victimisation, toujours dans le social, toujours. Moi, je veux bien aider, mais avant d'aider quelqu'un, il faut que la personne veuille aussi. Parce que l'aide, elle peut pas venir que de moi ou que de. Il faut que ça vienne de la personne en question. Il y a des choses, à un moment donné, elles ont pas été faciles. Nous, nos parents, ils ont été les chercher. Mon père, il a fait 40 ans d'usine. Mon père ne sait ni lire, ni écrire. Il fait 40 ans d'usine. Il s'est débrouillé. Il a éduqué ses enfants comme il a pu. D'accord? Il y a entre ceux qui ont fait des. On a fait chacun nos choix. Il a des enfants qui sont.
Alors après, il y a aussi dans ces quartiers. Il y a le trafic de drogue aussi qui change aussi la donne dans ces quartiers.
Oui, mais c'est là où j'en viens. C'est que le trafic de drogue, pourquoi il y a du trafic de drogue? Parce que c'est de l'argent facile.
Facile, bien sûr.
C'est de l'argent facile.
Et immédiat et liquide.
C'est ce
mot-là
qu'il faut enlever de la bouche des gens, en fait. C'est cette vie-là qui est en France. C'est facile. Je suis désolée de vous le dire.
Rien n'est facile.
Quand on va ailleurs, on voit que, franchement, on se plaint beaucoup. Hein, mais moi, j'ai vu des choses ailleurs. J'ai été dans les hôpitaux au Sénégal. Je peux vous dire, ça n'a rien à voir. À un moment donné, il faut comprendre qu'on est dans une vie facile. Il faut l'accepter qu'il y a des moments, il faut faire des efforts. C'est-à-dire que l'effort, c'est déjà se lever le matin. Tu ne peux pas dire, je ne trouve pas de boulot alors que tu ne te lèves pas, tu es dans ton lit jusqu'à midi. Et c'est à ce moment-là que tu vas...
Kumba, vous avez un discours qui plaît au GG. Vous êtes bien grande gueule, ma chère Kumba. Ça nous fait plaisir.
Ça nous fait plaisir. La question de grande gueule, c'est qu'à un moment donné, moi, ça m'énerve parce que mes parents...
On voit bien, on entend bien. On entend bien la sincérité de votre discours.
C'est le vécu. Que nos parents, ils ont fait et de dire que oui, ah, c'est pas facile pour ces jeunes.
Jean-Louis voulait réagir.
Oui, moi je pense que ça va être très difficile de parler après Kumba parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. Je pense qu'elle a parfaitement résumé le problème et que même son discours devrait devenir la ligne officielle du gouvernement. Et j'aimerais bien entendre le président de la République ou le ministre de l'Intérieur dire exactement ce qui vient d'être dit.
Et merci.
Je pense qu'elle a dit plusieurs choses intéressantes. Déjà, elle a parlé, c'est vrai qu'il y a eu un grand changement, de son papa qui avait travaillé à l'usine. Or, aujourd'hui, il y a quand même un grand problème, c'est qu'il n'y a plus d'usine. Il y a une désindustrialisation qui fait qu'on a détruit le tissu économique et social dont il était question ici et qui permettait aussi une intégration. Donc ça, c'est déjà le premier problème. La deuxième chose, c'est qu'en effet, elle a dit quelque chose qui est très juste. Le problème, et ce qui explique ces violences, c'est pas que là, ces délinquants n'ont pas assez, c'est qu'ils ont trop. Elle l'a dit d'ailleurs elle-même, ils ont infiniment plus que ce qu'avait la génération d'avant. Ils ont infiniment plus que ce qu'ont leurs cousins au Sénégal, au Maroc ou en Algérie. Et donc, en fait, ils ont trop. Et face à un État qui est trop faible, et comme le disait Nietzsche, la faiblesse inspire la haine. S'ils se comportent ainsi, c'est parce qu'ils voient un État qui est faible, un État qui manque de places de prison. Donc, ils savent qu'il n'y aura pas de réponse pénale. Et donc, eh ben, cette faiblesse nourrit un mépris et une haine viscérale en eux. Et donc, c'est pas du tout parce qu'on est trop fort avec eux, c'est parce qu'on est trop faible. Et d'ailleurs, ce n'est pas leur rendre service que d'être trop faible avec eux.
On a posé la question sur les réseaux sociaux, ce qui s'est passé à la Courneuve. Est-ce que vous craignez, je remercie encore Kumba d'avoir été avec nous, est-ce que vous craignez que ça dégénère, oui ou non? C'est un oui à 60%. Allez, dans un instant, le on s'en fout pas avec la petite blague de Michel Sardou et la réélection de Vladimir Poutine.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Discuter pour débattre les grandes gueules avec aujourd'hui Jean-Loup Bonamy. Il est professeur de philosophie. Nous sommes avec Flora Guebali, entrepreneur dans la transition écologique, et l'avocat Charles Consigny. On y va pour le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Vladimir Poutine réélu. On s'en fout ou pas, Flora?
On s'en fout pas.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Charles?
On s'en fout pas.
Bon, le président russe repart pour un cinquième mandat, réélu avec presque 88% des suffrages à l'issue du scrutin qui ne laissait aucun suspense. Hein. Ça fait un quart de siècle maintenant que Poutine est au pouvoir. Et il faisait face dans cette élection à trois candidats sans aucune envergure. Donc, aucun suspense, effectivement. Pourquoi on ne s'en fout pas, mon cher Jean-Loup?
On ne s'en fout pas parce que je pense que Vladimir Poutine, lui, accordait une grande importance à cette élection. D'ailleurs, il l'a beaucoup préparée. Et en fait, le but pour lui, c'est d'avoir le soutien de la société russe dans la guerre en Ukraine. Et je pense qu'au début du conflit, il était dans une situation assez gênante où il était peu soutenu par la population dans ce conflit, qui voyait pas pourquoi on allait embêter les Ukrainiens. Et au fur et à mesure que le temps passe, eh bien finalement la population russe se resserre derrière Vladimir Poutine parce que justement il arrive à convaincre sa population que c'est une guerre non pas contre les Ukrainiens, qui en fait sont des frères pour les Russes, mais contre les Occidentaux. Et donc toutes les sanctions qu'on peut prendre contre la Russie, tous les discours agressifs qu'on peut tenir à l'encontre de la Russie, en fait renforcent Vladimir Poutine vis-à-vis de sa population, et il dit, regardez, c'est bien l'Occident qui veut nous attaquer.
On s'en fout pas parce que rappelons que c'est une élection complètement fausse, hein. C'est certainement pas le peuple qui plébiscite à 88% Poutine. Toutes les élections de Poutine sont complètement truqué, arrangé, il faut quand même rappeler ça aux,
surtout qu'il y a pas d'adversité manifestement,
aux personnes qui nous écoutent. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup en ce moment, c'est j'ai l'impression que dans l'opinion française, on a de moins en moins envie et on comprend de moins en moins pourquoi on soutient les Ukrainiens. Et ça m'inquiète parce que pendant que Poutine est plus fort que jamais, nous on doute, on hésite, alors que l'Europe a évidemment intérêt à bien soutenir l'Ukraine.
Ça interroge sur la stratégie.
Par solidarité, mais aussi par intérêt européen.
Mais ça interroge sur l'échec de notre stratégie, parce que les sanctions économiques devaient faire vaciller le pouvoir de Poutine.
On n'est pas très agressif. Hein.
Et moi, j'aimerais bien que le gouvernement actuel, avec les Européens, fasse un bilan de ces sanctions économiques. On n'en parle jamais.
Et un bilan pour nous aussi.
Parce que forcément, ça a eu des conséquences pour nous.
Les GG, le concert événement à Paris, c'était samedi soir. Où ça? À la Défense Arena. C'était donc celui de Michel Sardou, et Alain et Olivier, vous y étiez. Et cette petite vanne de Michel Sardou qui a presque vidé la salle. Est-ce que vous pouvez nous raconter, les garçons?
Ah, au moment où il a commencé « Je vais t'aimer », Michel Sardou a dit « Voilà une chanson qu'aujourd'hui je ne pourrai plus écrire, je ne pourrai plus interpréter par les temps qui courent. Ça devient difficile pour les filles et les garçons. » Alors, il a mis un petit tacle à Sandrine Rousseau, puis il a fustigé cette époque où aujourd'hui...
Oui, il s'est moqué du consentement, en fait, parce qu'il a dit « Oui, alors aujourd'hui, si vous mettez la main sur la cuisse d'une fille, vous finissez en correctionnel, et si vous voulez l'embrasser, vous finissez aux assises. » Ça fait rire la salle, mais pas tout le monde. On peut raconter que derrière nous, il y avait deux jeunes filles qui devaient avoir 17-18 ans avec leurs parents, qui se sont levées et qui ont dit « Je ne reste pas dans ce concert de fachos » et elles se sont barrées. Et les parents, qui étaient un peu stupéfaits, sont restés un quart d'heure et puis après, on les a vus quand même se lever pour aller récupérer. Je pense que ces filles n'avaient pas été préparées.
Psychologiquement.
Et alors, il se trouve que Michel Sardou, on a eu l'honneur d'aller le voir ensuite en loge. Et on est revenu sur cette blague, etc. Et lui-même, il dit « Oui, ça marche bien. » C'est vrai que toute la salle rit, hein, quand il se moque de Sandrine Rousseau. Mais lui-même en convient, c'est une vanne un peu d'un autre temps. Et il a conclu en nous disant « Bon, en même temps, tout le monde sait que je suis pas de gauche. » Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut pas rire de ça. En fait, l'humour sur ces questions-là est impossible aujourd'hui.
Alors, on s'en fout ou pas de la petite vanne de Sardou avec quelques personnes qui quittent la salle.
On s'en fout pas.
On s'en fout.
Charles, on s'en fout pas.
Flora.
On s'en fout pas du tout et ça vous montre à quel point la fracture générationnelle est forte. Parce que moi, les blagues sur la culture du viol, ça m'amuse pas en fait. Et je sais pas ce que j'aurais fait dans le moment.
T'aurais pu quitter la salle.
Bah déjà, je serais pas allée voir un concert de Sardou. Je préfère aller au concert de Juliette Armanet. Son dernier concert était vraiment magistral. J'y étais. Non, je rigole. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Ça n'a aucune importance. Sur le fond, moi, bah voilà, on touche les fesses d'une fille, on met la main sur une cuisse, on finit au correctionnel. Il veut pas être un peu subtil, il veut pas être un peu au-dessus de ça. Non, allez hop, on arrive avec ses gros sabots et c'est bien, on fait rire les boomers. Peut-être que je sais pas. En fait, ça montre juste à quel point la fracture générationnelle est difficile. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'arrive plus à se parler dans ce pays. Il va falloir que tout le monde fasse un pas vers l'autre parce que sinon, on va pas s'en sortir.
Charles.
Non, je pense que la vanne n'est pas forcément très drôle, mais je continue à penser que Sardou jette un regard tout à fait éclairé sur notre époque. Je pense que c'est un bon lecteur de notre époque et qu'il a raison de s'en désoler.
Dernier, on s'en fout pas. Anaïs ?
Et puis les JO de Paris, tiens, ça faisait longtemps, oui. Les bébés aussi devront être munis d'un billet pour assister aux épreuves, les GG. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles ?
Non, on s'en fout pas.
Jean-Loup ?
On s'en fout pas.
Flora ?
Moi, je m'en fous.
C'est une info RMC Sport après la polémique sur les tarifs de billetterie jugés excessifs. Là, c'est le coup de grâce pour les parents qui ont eu la chance d'avoir des places pour les Jeux. Ces spectateurs ont découvert après coup que les bébés se verront refuser l'accès au site s'ils n'ont pas leur propre billet. Des parents en colère qui demandent une modification des règles, bien évidemment. Pourquoi on s'en fout pas, Charles ?
Non, parce que c'est un nouvel exemple de l'atrocité que va représenter cet événement. Mais c'est évident que ça va être atroce et vous verrez que ça a déjà commencé à l'être. Vous verrez qu'ils ne vont reculer devant rien. De toute façon, moi, je pense qu'on a franchi toutes les barrières de ce qu'on permet aux autorités avec le Covid. Je pense que le moment du Covid a été un moment où on a fait sauter tous les verrous dans les cerveaux ramollis de nos concitoyens et qui sont prêts désormais à tout accepter. Donc vous verrez que ces Jeux seront un moment très liberticide et très mal organisé.
Jean-Loup ?
Non, rien à rajouter à ce que vient de dire Charles, c'est-à-dire qu'on voit à la fois le caractère dysfonctionnel de ces JO qui vont... D'ailleurs, je pense qu'après, Hollywood fera un film d'horreur qui s'appellera Paris 2024. Ça sera, voilà, avec des images filmées dans un métro bondé.
Ou à la Courneuve.
Les amis,
voilà,
alors,
d'un japonais écrasé.
Non, mais c'est pour des questions de sécurité.
Non, mais est-ce que les JO des épreuves sportives sont vraiment adaptées à des enfants de moins de 4 ans?
C'est pas le sujet, c'est qu'on veut les faire payer.
Paris 2024, justement, dans un communiqué. C'est pas forcément adapté à des bébés.
Ça en dit long.
Des compétitions sportives. Non, mais
alors, si les gens veulent aller avec leurs gamins voir.
Pas au stade
Ça en dit long sur la mesquinerie. Quand même, la mesquinerie de la mesure.
Oui.
Alors, moi, il y a plusieurs remarques. Déjà,
c'est parti sur une fête populaire, ça devient de moins en moins populaire.
C'est-à-dire, on dit. Il y a quand même un rapport, on dit réarmement démographique. Mais tu fais rien pour récompenser les gens qui ont des enfants.
C'est pas faux. Surtout, on organise ça comme des Chinois. Je suis désolé de vous dire que nous, la France démocratie, nous organisons désormais nos événements, nous gérons nos pandémies, nous fonctionnons comme des régimes autoritaires. Il faut qu'on ouvre les yeux là-dessus pour arrêter ça.
Et ensuite, la mesquinerie. Et enfin, dernière remarque, vous savez qu'en pharmacie, il y a une catégorie de médicaments qu'on appelle les émétiques. C'est les médicaments qui font vomir. Ben moi, j'ai trouvé le meilleur émétique, c'est l'affiche. officielle des JO de Mimica, avec ses couleurs criardes, c'est horrible, de laideur, de kitsch et de mauvais goût.
Allez, c'est reparti.
C'est vraiment l'émission du 21e siècle, prix Nobel de pharmacie.
C'est sur cette note positive que nous terminerons. Dans un instant, suite des GG, suite des grandes gueules avec vous.
Bonne semaine.
Pour regarder que chez les agriculteurs, bon bien, ça pourrait très bien repartir.
Oui,
il y a des petites actions de blocage qui sont prévues là aujourd'hui. Allez, à tout de suite au 32-16.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.